Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Certaines maladies sont associées plus que d'autres à des préjugés, des images caricaturales, parce qu'il est souvent plus simple de décrire les symptômes les plus spectaculaires sans forcément s'intéresser à d'autres signes qui, tout en étant moins manifestes, moins évidents, se révèlent parfois plus fréquents et plus difficiles à surmonter au quotidien. La maladie dont nous parlons aujourd'hui dans Priorité Santé, le syndrome de Gilles de la Tourette, fait partie de ces pathologies dont beaucoup ont entendu parler sans en connaître ni la véritable nature, ni l'impact que ces tics physiques ou verbaux peuvent avoir sur les personnes concernées. À la faveur de films, de reportages, le grand public retient les insultes qui fusent, les injures lâchées sans retenue, les crises inattendues qui peuvent sidérer comme provoquer des moqueries. Cette maladie neuropsychiatrique se déclare le plus souvent dans l'enfance et les patients en témoignent. Vivre avec peut se révéler douloureux, en particulier avant que le diagnostic ne soit posé. Être pris en charge, comprendre comment l'environnement agit sur les symptômes, recevoir le soutien de professionnels formés, apprendre à vivre avec, y compris avec le regard des autres. Syndrome de Gilles de la Tourette, quel suivi, quel traitement? Que sait-on au juste de cette maladie neuropsychiatrique? Avec nous en studio, Dr Andreas Hartmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue et responsable du centre de référence pour le syndrome de Gilles de la Tourette à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Nous donnerons tout à l'heure la parole à Sarah. Sarah, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été diagnostiquée à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, 34 ans, vous êtes membre de l'Association française du syndrome de Gilles de la Tourette. Sarah, vous êtes également praticienne en neurofeedback. À ce titre, vous travaillez avec le docteur Hartmann et avec le docteur Adrien Chaboch, médecin psychothérapeute, pour mettre en place un partenariat de suivi dédié à ce syndrome en secteur libéral. Maladie neuropsychiatrique complexe, encore mal connue dans un pays comme le Togo. C'est ce que nous verrons avec le professeur Moufou Bello, chef de service de neurologie au CHU Sylvanus Olympio de Lomé.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Hartmann, est-ce que le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est une maladie simple à diagnostiquer?
A priori, oui, je dirais. C'est un diagnostic clinique, donc on observe le patient, on observe ses tics, on lui pose des questions. Parfois, d'ailleurs, en consultation, on voit très peu tics parce que les personnes qui en ont se retiennent quand ils sont face à des personnes qu'ils ne connaissent pas. Donc, dans le doute, on peut aussi demander quelques petites vidéos. Mais sur le fond, ce n'est pas un diagnostic très, très compliqué, je dirais.
Des signes multiples, parfois, mais vous avez d'ores et déjà prononcé le mot de tic, docteur Andreas Hartmann. Comment définir ces tics? Ils se manifestent de quelle manière? Il y en a plusieurs, ça peut vraiment apparaître sous des formes différentes, à des fréquences différentes, dans des moments de la journée différents. Ça vient d'où un tic?
Alors, on ne connaît pas exactement les causes des tics, donc ce que nous on appelle l'étiologie, la cause profonde. On connaît un peu les mécanismes de ce trouble, on va dire. Je ne l'appellerais même pas forcément une maladie, ça dépend vraiment du degré de sévérité. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelque chose qui est lié au fonctionnement du cerveau. Donc, j'insiste beaucoup sur ce point. Ce n'est pas quelque chose de psychologique ou quelque chose qui est contextuel ou qui vient de l'extérieur.
C'est pas notre passé qui va expliquer la survenue du syndrome.
Non.
C'est pas un traumatisme, en tout cas.
Non, tout à fait. Vous pouvez avoir une vie très heureuse et épanouie et avoir des tics, tout comme en étant très malheureux et ne pas en avoir.
Alors, les garçons plus touchés que les filles, est-ce qu'on a des explications sur ce point?
Non plus, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent dans ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement, donc par exemple aussi dans l'autisme, avec une prépondérance très claire pour les garçons.
Certains symptômes qui peuvent régresser avec les années, là encore des explications?
Non, mais c'est quelque chose de très curieux et en même temps positif. C'est vrai que les tics souvent s'améliorent, tout au moins ou diminuent à l'âge adulte, donc c'est quelque chose qui est positif et qu'il faut vraiment souligner auprès des familles.
Alors je l'ai dit tout à l'heure en commençant, docteur Hartmann, pour le grand public, le syndrome de Gilles de la Tourette, ce sont surtout ces cris, ces insultes. Pourtant, c'est loin d'être la réalité, c'est loin d'être tout simplement ça.
Tout à fait. Ce que vous décrivez est quelque chose qui touche en fait une minorité de patients. Et d'ailleurs, même les personnes qui ont des coprolalies n'en ont pas tout le temps. Et souvent, quand ils sont en public, se retiennent. Donc
coprolalie, c'est cette manière, on va dire, d'éructer, de dire des grossièretés comme ça.
Oui, pardonnez-moi. Voilà, c'est le terme technique ou médical. Mais voilà, c'est un symptôme qui est spectaculaire, qui stimule aussi un peu, on va dire, l'imagination des gens. Et c'est pour ça que c'est devenu, on va dire, un peu l'image de marque du syndrome de la Tourette, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le symptôme prédominant.
Qu'est-ce qu'on sait de la dimension héréditaire de la maladie ? On parle de génétique quand on parle du syndrome de Gilles de la Tourette ?
Alors, la génétique n'est pas forcément l'hérédité, puisque notre génome mute de génération en génération, donc on peut aussi penser qu'il y a ce qu'on appelle des nouvelles mutations, des néo-mutations qui pourraient expliquer les tics, on va dire, ou le syndrome de la Tourette. Mais d'une manière générale, voilà, il y a une composante héréditaire, c'est vrai, on a souvent des histoires familiales positives. Et pourtant, voilà, dans aussi un nombre très conséquent de cas, voilà, il n'y a pas de personne dans la famille atteinte, donc on peut penser que la génétique n'explique pas tout, clairement pas tout.
Alors, docteur Hartmann, il y a ces tics, mais il y a aussi des crises, notamment des crises de colère, de rage, voire même des gestes dangereux pour le patient, hein, de l'automutilation. C'est quoi le lien entre ces différentes manifestations ? Est-ce qu'on le sait déjà ? Parce que vous nous décrivez il y a beaucoup de questions. Ça veut dire que les chercheurs ont du travail, ça c'est un point positif. Mais qu'est-ce qu'on sait des liens, par exemple, de la connexion entre ces différents symptômes ?
Alors, sur un plan, on va dire, descriptif, on peut quand même faire des liens, bien évidemment. Quand je dis il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, ça concerne essentiellement, on va dire, les causes. Et là, c'est un problème récurrent dans toutes les maladies neurologiques, par ailleurs. Mais ce qu'on sait, par exemple, que dans les crises de rage, c'est que c'est très souvent associé quand même à de l'hyperactivité ou à un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc c'est un mélange en fait de syndromes, on va dire, neurologiques ou psychiatriques. On connaît aussi un peu les événements ou les éléments déclencheurs de ces crises, donc ce qui peut les provoquer, aussi ce qui peut parfois les atténuer. Donc voilà, on a quand même des éléments de réponse, mais c'est vrai que voilà, on ne sait pas exactement d'où ça vient et on n'a pas non plus pour l'instant une cure, on va dire, pour ce type de symptômes.
En ligne, on vous retrouve, Sarah, bonjour.
Bonjour.
On a parlé tout à l'heure avec le docteur Hartmann, que vous connaissez bien, du diagnostic. Vous l'avez, vous, de votre côté, personnellement, attendu combien de temps ce diagnostic ?
5 à 6 ans.
5 ans sans savoir. Avec quelle manifestation de la maladie, quels symptômes pendant cette période, on va dire, d'inconnu ?
Beaucoup de tics, beaucoup de crises de rage, des tocs aussi, beaucoup de tocs, de l'automutilation, enfin... Un peu tout ce qu'on appelle le soleil, toutes les comorbidités au tic, j'en avais pas mal. Le problème, c'est que c'est survenu en même temps que l'adolescence. Donc, quoi mettre sur le compte de l'adolescence, une crise d'adolescence un peu difficile, et quoi mettre sur le syndrome Gilles de la Tourette ? C'est pour ça que je pense que le diagnostic a été compliqué à mettre en place. Et surtout, j'ai vu plein de médecins qui ne savaient pas ce qu'il y avait.
Alors, certaines personnes qui présentent des tics ressentent des signes annonciateurs. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous sentez monter ou venir ?
Oui, parfois, pas tout le temps. Pas tout le temps. Bon, là, actuellement, j'en ai beaucoup moins que quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai que des fois, on peut sentir que ça vient. Puis, il peut y avoir, entre guillemets, des éléments déclencheurs, type une contrariété ou... C'est pas forcément un événement négatif. Ça peut être aussi quelque chose de très positif. Tout ce qui est dans les extrêmes, aussi bien très positif que très négatif, peuvent déclencher des tics. Et notamment, c'est ça que je ne comprenais pas adolescente, c'était pas forcément quelque chose de négatif qui pouvait déclencher.
Docteur Hartmann, un retard de diagnostic pour Sarah, qui témoigne. Comment est-ce que vous l'expliquez, puisque tout à l'heure vous nous expliquiez à l'inverse, les symptômes sont plutôt clairs et le diagnostic est plutôt simple?
C'est pas parce que le diagnostic est compliqué, c'est que je pense que beaucoup de gens ne sont pas vraiment formés au tic et sensibilisés à cela. Et encore une fois, même parmi les professionnels de santé, beaucoup s'imaginent que justement, s'il n'y a pas d'insultes, s'il n'y a pas de gros mots, ben forcément, il ne peut pas y avoir de Tourette. Je pense aussi qu'il y a un problème peut-être un peu particulier à la France, qui est qu'en France, on parle souvent de tics nerveux. Et donc, quand vous parlez de tics, les gens disent « mais tout le monde a des tics ». Donc, c'est la mèche, c'est tapoter les doigts, etc. Donc, il y a un peu une confusion, on va dire, entre ce que...
Un geste répétitif
et un tic. Voilà. Donc là aussi, il y a une sorte de démarcation qui n'est pas claire.
Alors, quand le médecin pose ce diagnostic, Sarah, c'était quel spécialiste ? Un psychiatre ?
Oui, un psychiatre.
Alors, quand il prononce ce nom, syndrome de Gilles de la Tourette, est-ce que vous en aviez déjà entendu parler ?
Je me souviens pas. Je pense, je connaissais pas très bien. De mémoire, je connaissais pas très bien. J'y avais pensé, mais on n'avait jamais vraiment posé le mot. C'était vraiment, ça fait du bien déjà
de savoir.
De savoir, c'est un soulagement énorme.
Alors, au-delà de cette clarification, qu'est-ce que ça vous a changé dans la vie en termes de prise en charge, par exemple ? Est-ce qu'on vous a fait des propositions pour aller mieux, tout simplement ?
Oui. Au départ, ça passe par le traitement médicamenteux, qui m'a beaucoup aidée au départ. Après, il y a tout ce qui est prise en charge des TCC, que j'ai fait par la suite. Thérapie cognitivo-comportementale qui aide beaucoup pour réduire les tics, les tocs.
Vous voyez une amélioration assez rapidement au bout d'un certain nombre de séances ?
Ça prend un certain temps. Ouais. Il y a l'âge aussi qui a fait que quand j'ai eu le diagnostic à 18 ans, j'ai pas fait toutes les thérapies tout de suite. Ça s'est inscrit plus loin dans le temps.
Ça veut dire qu'au début, il y a eu un petit peu de résistance de votre part ou vous disiez je vais continuer à vivre avec, on verra plus tard.
Oui, il y a eu un peu ça aussi. Il y a eu un peu ça. On est soulagé d'avoir le diagnostic, mais il faut digérer aussi l'information.
Précisément avant ce diagnostic, vous disiez plusieurs années sans savoir. Est-ce que vous avez eu le sentiment que la maladie a compliqué, voire carrément abîmé certains moments de votre adolescence ?
Compliqué, oui. Abîmé, non. Compliqué, ça, oui. Ça, oui, c'était...
C'est quoi, les relations, la scolarité ?
La scolarité, oui. Ouais. La scolarité, tout à fait. J'avais énormément de mal à me concentrer en cours. Je me souviens très bien de voir DS de maths où on m'entendait faire mes tics et les mouches voler. Enfin, c'était assez, j'étais assez mal à l'aise vis-à-vis de ça. Et puis, vous avez déjà du mal à vous l'expliquer vous-même pourquoi vous faites ça. Alors, l'expliquer aux autres, c'est inimaginable. Vous vous sentez folle. Il y a des fois, c'est bizarre.
On a l'impression quand même de faire n'importe quoi.
Oui, et on ne contrôle pas. On ne sait pas pourquoi on le fait.
Docteur Andreas Hartmann, on parlait tout à l'heure justement des thérapies. Est-ce que finalement, on apprend le contrôle ? Comment ça se passe ? Comment décrire ?
Alors, il y a plusieurs techniques déjà de TCC, mais enfin, on va dire deux techniques principales. L'idée, effectivement, c'est d'apprendre le contrôle, mais surtout de briser cette boucle, on va dire, entre ce qu'on appelle la sensation prémonitoire, dont vous parliez un peu, et l'exécution du geste. C'est-à-dire, l'idée, c'est que au bout du compte, vous n'ayez plus envie de tiquer.
En court-circuit.
Voilà, en court-circuit. L'idée, c'est pas d'être tout le temps dans une sorte de contrôle, parce que ça, ce serait extrêmement pénible.
Excusez-moi, est-ce que le tic soulage ?
Le tic soulage, oui. Ouais. Et d'ailleurs, l'allégorie ou l'image qu'on utilise, ou la métaphore plutôt, c'est celle d'une piqûre de moustique. Vous voyez, vous faites piquer, vous avez envie de vous gratter. Si vous arrivez à résister à l'envie de vous gratter pendant un temps, l'envie de gratter diminue. Par contre, si vous cédez, c'est reparti pour un tour.
Alors, est-ce que vous avez réussi à contrôler efficacement, Sarah, un certain nombre de choses, un certain nombre de comportements ?
Oui, oui, oui.
Et est-ce que ça demande, alors ça c'est une question que je me pose vraiment, ça demande beaucoup de concentration, est-ce que ça fatigue ce contrôle ? Est-ce que ça veut dire qu'en fin de journée, on est vraiment, vraiment épuisé, et puis que du coup, il y a certaines occasions où on va relâcher, et du coup le tic va nous réenvahir la vie ?
Oui, tout à fait. Puis c'est très lié, en tout cas pour ma part, à la fatigue. Plus je suis fatiguée, plus j'en ai. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux. Plus vous vous contrôlez, plus ça vous fatigue, et plus quand vous relâchez après, ça fait un petit peu la soupape de décompression, il y en a un peu plus.
Alors, on a parlé tout à l'heure de cette forme de rééducation, ce travail en psychothérapie. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous avez par exemple identifié ce qui vous rend la vie plus douce ? Est-ce qu'il limite l'éthique ? Pas trop d'émotions, on a compris, positif ou négatif. Je pense que vous évitez par exemple les montagnes russes ou ce genre de choses. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous apaisent et qui vous permettent en fait de mieux vivre avec ?
J'avais plusieurs... ça change au fur et à mesure de la vie. Donc moi, je me souviens qu'en TCC, on avait beaucoup travaillé avec la lecture. Et ça, c'est un truc que j'ai des fois du mal à le faire, mais c'est quelque chose qui m'apaise de lire.
Est-ce que c'est de la lecture à voix haute ou de la lecture silencieuse?
Non, de la lecture silencieuse.
Silencieuse.
La lecture silencieuse, il y a ça, il y a la cohérence cardiaque aussi qui aide beaucoup. Pas forcément que pour les tics d'ailleurs, c'est une technique de relaxation qui est bien connue en général. Voilà, il y a plusieurs choses. La respiration, voilà, à grande échelle en général, ça aide beaucoup.
Docteur Andreas Hartmann, on voit vraiment là le carrefour de plusieurs disciplines, hein, des disciplines, on va dire, dures de la médecine comme la vôtre, la neurologie. Et puis, il y a ces approches, on va vraiment au coup par coup. On a appris par l'expérience à prendre en charge ce syndrome.
On peut dire comme ça, de toute façon, comme vient aussi le décrire Sarah, les patients développent aussi leur propre stratégie, donc c'est une approche très individuelle qu'il faut soutenir, à mon avis. Il n'y a pas un modèle, on va dire, ou une approche qui soit vraiment la bonne forcément pour tout le monde. Donc voilà, par exemple, sans surprise pour beaucoup de mes patients, par exemple le sport aussi, c'est quelque chose qui les aide beaucoup à diminuer leur tic, à titre d'exemple. Et plus généralement, d'ailleurs, toutes les activités où il y a un peu de concentration, mais de concentration sur des activités bien sûr plaisantes. Donc ça peut être le théâtre, la musique, enfin voilà, il y a tout un tas d'approches possibles.
Tout à l'heure, vous parliez des médicaments, on agit sur quoi? Sur l'anxiété?
Alors, les médicaments, ce sont des médicaments antitiques. Hein. C'est pas un effet indirect sur l'anxiété, même si ça peut jouer aussi. L'idée, c'est effectivement de réduire les tics en tant que tel. Voilà, il y a aussi des approches, on va dire, un peu indirectes, plutôt anxiolytiques, mais dans ce qu'on utilise, c'est vraiment des traitements qui sont ciblés sur les tics.
Docteur Andreas Hartmann, Sarah, vous restez avec nous, on va se retrouver juste après ce titre de Billie Eilish, Bad Guy.
White shirt, now red, my bloody nose, sleeping, you're on your tippy toes, creeping around like no one knows, think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Priorité santé sur RFI, le syndrome de Gilles de la Tourette, décrire la maladie, lutter contre les préjugés, changer le regard sur les patients. On est toujours avec Sarah, membre de l'association française du syndrome de Gilles de la Tourette, et avec vous, docteur Andreas Hartmann, neurologue responsable du centre de référence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors cette illustration musicale, docteur Hartmann, je l'ai pas choisie au hasard, Billie Eilish, jeune artiste extrêmement populaire auprès des jeunes, elle a parlé publiquement de sa maladie. Elle est donc atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Cela se voit parfois dans son regard, dans ses mouvements de tête. Est-ce que c'est important, ce type de prise de parole?
Je pense que oui, parce que ça montre très clairement qu'on peut être, faire des choses merveilleuses comme Billie Eilish, tout en ayant des tics. D'ailleurs, je ne suis pas sûr, mais dans ce que j'ai lu et entendu de sa part, bon, elle en parle. D'un autre côté, elle dit ce n'est pas cela qui me définit, ce que je trouve positif, c'est-à-dire voilà, elle en fait pas non plus tout un plat. Mais dans mes consultations, bien évidemment, c'est très utile d'avoir des personnes comme elle et dire voilà, regardez ce qu'on peut être et ce qu'on peut devenir malgré, on va dire, un certain handicap qui peut être lié au tic.
À l'inverse, est-ce qu'il y a des formes de médiatisation qui peuvent nuire?
Oui. Alors déjà, bien évidemment, il y a une représentation souvent très caricaturale du syndrome de la Tourette dans les médias, les films. Et puis c'est vrai que bon, YouTube, TikTok et Instagram, ça nous aide pas forcément, j'ai envie de dire. Dans l'ensemble, je trouve que ça c'est généralement plutôt... Voilà,
ça n'enrichit pas souvent le débat. Hein.
Malheureusement, voilà. Mais bon, il y a bien sûr, comme partout, il y a aussi des sources qui sont de qualité.
Sarah, on vous retrouve. Parlez ouvertement de cette maladie pour vous aujourd'hui. Est-ce que ça vous pose un problème? Bien sûr, vous n'êtes pas la maladie, mais est-ce que vous en parlez communément?
Oui, ça me pose plus de problème au jour d'aujourd'hui. J'ai plus aucun problème avec ça. C'est même, je pense, devenu une force maintenant.
Et partager votre expérience, expliquer, c'est quelque chose qui vous tient à cœur?
Oui, parce que c'est pour ça d'ailleurs que je suis bénévole au sein de l'association du syndrome Gilles de la Tourette, parce que maintenant je suis adulte, je travaille, j'ai une vie un peu plus normale, et pour moi ça me semble important de témoigner pour les jeunes enfants qui viennent d'avoir un diagnostic, pour les parents, pour toutes ces personnes-là. J'aurais bien aimé moi trouver quelqu'un à cette époque-là.
Qui en parle. Docteur Hartmann, justement, sur ces difficultés d'interpréter certains comportements, je vous propose tout de suite de donner la parole à un auditeur.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
On part pour la Côte d'Ivoire, Abidjan. On vous retrouve. Zié, bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Alors Zié, vous souhaitiez nous parler de votre neveu, il a 12 ans. Qu'est-ce que vous avez observé, on va dire, d'assez différent dans son comportement?
Oui, bonjour docteur, d'abord.
Bonjour.
Oui, effectivement, ce que j'ai constaté chez l'enfant, voilà, c'est que c'est dans le parler, quand il parle, au début, il va parler normalement. Mais après, ça se mélange, quoi. C'est comme si c'est un enfant qui apprend à parler maintenant, alors qu'il a 12 ans maintenant.
Et est-ce qu'il a des mouvements incontrôlés? Est-ce qu'il a des gestes brusques?
Oui, il a des gestes brusques. Par exemple, quand il va s'asseoir, il va incliner la tête brusquement, ou il va balancer le pied, brusquement.
Et est-ce que ça lui cause des problèmes à votre petit-neveu? Il s'appelle comment, ce neveu?
Il s'appelle Moussa.
Alors Moussa, est-ce qu'il a des problèmes à l'école? Comment ça se passe avec sa maîtresse, par exemple?
Oui, il a des difficultés à l'école, parce que j'ai vécu un moment avec sa maman. J'ai eu à causer avec son maître également, et il m'a dit que quand il est en classe, c'est un peu pareil, comme ce qu'il fait à la maison. Bon, du coup, il ne suit pas le coup. Il perturbe beaucoup son entourage, les médias, ses voisins, tout ça.
Alors, qu'est-ce qu'en dit votre sœur, qui est la maman de votre petit-neveu Moussa? Qu'est-ce qu'elle en dit?
J'ai l'impression qu'elle ne s'en rend pas compte au fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez l'enfant.
Vous la sentez inquiète, ou plutôt elle se met plutôt la tête dans le sable, ou finalement pour elle ça ne lui pose pas de problème? Et d'ailleurs, est-ce que ça pose des problèmes à votre neveu? Est-ce qu'il s'en plaint de tout ça?
Puisque j'ai pas eu à échanger avec lui personnellement sur le sujet, mais je sens qu'il est perturbé. Par ça, puisque avec ses voisins, tout ça, par moments, ils vont se moquer de lui. Voilà.
Est-ce qu'elle en a déjà parlé, sa maman, à un médecin, ou jusqu'à présent, il y a juste eu les échanges avec le maître d'école?
Non. Elle n'a jamais parlé. C'est plutôt moi qui l'ai constaté. Et moi, je souhaiterais voir si c'est effectivement, ça rentre dans le cadre de l'émission, et puis voilà.
D'accord, mais Zié, vous comprenez bien, c'est vraiment absolument impossible de faire un diagnostic à distance, à la radio. Il faut qu'un médecin, qu'un spécialiste voit cet enfant pour comprendre ce qui se passe exactement. Mais ce qu'on a bien saisi, c'est que vous souhaitiez savoir si, en tout cas cela peut suggérer un rapprochement avec le trouble dont on parle aujourd'hui, ce syndrome de Gilles de la Tourette. En tout cas, essayer de comprendre ce qui se passe chez votre neveu, docteur Hartmann. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Zié, même si encore une fois, on ne pose pas de diagnostic?
Non, bien sûr que non. Mais ce que vous décrivez peut en effet suggérer que votre neveu est d'éthique, notamment les mouvements de la tête, du pied, Le fait aussi que ses camarades se moquent de lui, donc ça veut quand même dire qu'il y a des comportements qui sont un peu, on va dire, hors du commun. Donc ça, c'est quelque chose justement qui fait beaucoup souffrir nos patients. C'est les moqueries, c'est le regard des autres. Après, il y a un deuxième élément qui est le fait qu'il soit quand même, si je comprends bien, un peu agité, un peu perturbateur. Donc ça fait plutôt penser à ce qu'on appelle un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc il y a les problèmes d'attention, de concentration qui se répercutent aussi sur les performances scolaires. Et l'hyperactivité, donc le fait d'avoir un peu la bougeotte, d'être tout le temps en mouvement, d'avoir du mal à tenir en place. Et souvent, en fait, TIC et ce TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, sont associés.
Est-ce que on va voir un médecin en particulier quand on a ce type de symptômes? Évidemment, quand on est en Côte d'Ivoire, c'est pas forcément très simple d'aller voir un spécialiste à sa porte. Mais en tout cas, si on était dans un contexte beaucoup plus ouvert en termes d'accès aux soins, on irait voir qui comme spécialiste?
Alors, probablement un pédopsychiatre, puisque voilà, c'est quand même la spécialité qui regroupe un peu tous ces troubles, ou éventuellement un neuropédiatre.
Est-ce que vous pensez que votre sœur est prête à accompagner votre neveu en consultation, ou est-ce que c'est trop tôt pour elle, puisque elle n'y voit pas de problème?
Bon, si moi j'ai assez d'informations, je vais échanger avec elle. Je pense qu'elle sera prête à aller voir quelqu'un spécialement pour poser les diagnostics et puis voir ce qu'on peut faire.
Parce que vous, à titre personnel, vous êtes inquiet pour cet enfant?
Oui, je suis inquiet puisque c'est mon neveu. Et puis d'ailleurs, c'est le fils unique de ma soeur. Voilà, du coup, elle voudrait voir que son enfant réagisse normalement comme les autres. Voilà, mais c'est pas le cas.
En tout cas, réussir à le comprendre, c'est très important.
Voilà.
Merci beaucoup pour votre question, votre intervention. Très bonne journée en Côte d'Ivoire. Alors, d'un côté, il y a cette maladie que certains, à l'écoute de l'émission, découvrent peut-être aujourd'hui. En ce qui concerne votre centre de référence, docteur Andreas Sartmann, vous nous l'avez dit en préparant cette émission, on va dire que c'est à Paris, une forme de saturation. Il y a beaucoup de demandes. Comment est-ce que vous l'expliquez? Il y a les moyens, mais est-ce qu'on va dire que c'est quelque chose de très fréquent, finalement, cette maladie, en termes de... Ou c'est en tant que centre de référence, vous attirez forcément davantage de cas?
Je pense que c'est un peu à mélanger d'eux. Il y a quand même un certain nombre de personnes atteintes. Donc c'est considéré officiellement comme une maladie rare, mais voilà, les données épidémiologiques ne sont pas tout à fait claires non plus. Et puis finalement, voilà, il y a relativement peu de personnes spécialisées ou formées au syndrome Gilles-Latourette, même si on a tout un réseau en France. Il n'y a pas que, bien sûr, le centre à Paris, on a ce qu'on appelle les centres de compétences, avec pratiquement dans tous les CHU français des personnes qui voient des personnes atteintes de TIC et de syndrome Gilles-Latourette. Mais voilà, clairement, les listes d'attente sont longues et voilà, on fait de notre mieux pour avancer, mais c'est pas toujours facile.
Ce sont des patients, dans la plupart des cas, que vous suivez au long cours?
Ça dépend. Généralement, bon, déjà l'idée c'est de poser un diagnostic. Et comme disait d'ailleurs Sarah tout à l'heure, pour certains déjà c'est un soulagement. Parfois aussi c'est pour dire ce n'est pas un syndrome Gilles-Latourette, ça peut arriver aussi, mais c'est notre rôle aussi d'exclure parfois ce diagnostic. Après, pour le suivi, ça dépend vraiment, voilà, où est-ce qu'habite la personne, est-ce qu'il y a un centre de compétences près de chez eux, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un suivi chez nous, est-ce que ça peut se faire en lien avec un pédopsychiatre ou un neuropédiatre de proximité. Donc il y a plusieurs manières de faire par la suite, mais j'ai effectivement des patients que je suis plusieurs centaines.
Est-ce que le fait d'être pris en charge tôt permet de diminuer les symptômes et parfois de faire disparaître la maladie, ou finalement la prise en charge n'a pas de prise sur l'avenir de la maladie?
Je ne pense pas que la prise en charge ait vraiment un impact sur le décours de la maladie, même si j'espère bien sûr que l'accompagnement en soi peut être utile. Mais
c'est ce qu'on a entendu en tout cas avec Sarah, évidemment.
Mais voilà, mais je ne pense pas que l'évolution en soi soit affectée par une prise en charge précoce.
Ça veut dire qu'il y a des prises en charge qui sont vraiment en tout cas nécessaires pour soulager les personnes. C'est vraiment ce qu'on a entendu avec le témoignage de Sarah. Et maintenant, on va donner la parole à un autre médecin que les auditeurs de Priorité Santé connaissent bien, puisque c'est votre voix, docteur Adrien Chaboch. Bonjour.
Bonjour Caroline,
à tous. C'est votre voix qui avait aidé les auditeurs à retrouver une certaine sérénité au pic de la crise sanitaire. On se souvient bien sûr de vos séances de relaxation à l'antenne. Vous êtes généraliste, vous êtes thérapeute, vous êtes cofondateur du Centre Vitruve à Paris. Pourquoi, docteur Chaboch, avoir mis en place un partenariat dédié spécifiquement à ce syndrome de Gilles de la Tourette?
Eh bien, André Hartmann, que je salue au passage, et donc nous avons décidé d'essayer de mettre en place, de créer un partenariat qui permettrait d'agir sur différents plans. En fait, le premier plan, c'est déjà de faciliter le lien, l'articulation entre la ville et l'hôpital. Parce que encore, malheureusement maintenant, ce sont deux systèmes qui se côtoient et qui sont indispensables l'un à l'autre, mais dont les passerelles de fonctionnement sont pas encore complètement bien développées. Et c'est au détriment, évidemment, du patient. Donc la première chose, c'est cette articulation. La deuxième chose, c'est, je rebondis sur ce que Andreas Hartmann disait à propos des comorbidités. Dans le syndrome Gilles de la Tourette, notamment, on peut parler des tics et des troubles de l'attention. Il y a une prise en charge spécifique. Et pour ça, il faut qu'il y ait des centres, évidemment, de référence, tels que la Pitié-Salpêtrière. Et en même temps qu'il faut aussi accompagner les patients sur des choses qui sont non spécifiques à leur maladie, mais qui entraînent une souffrance psychique, morale, physique, sociale, qui est très importante. Alors il faut apprendre à travailler ensemble entre ce que les spécialistes de la maladie ont comme mission et ce que nous pouvons apporter. Et ce que nous pouvons apporter, c'est une prise en charge globale d'accompagnement qui va à la fois traiter ses comorbidités et faire le lien. Et donc ça, c'est le troisième point, c'est de pouvoir progressivement garder le lien avec ses patients au long cours dans un accompagnement, c'est-à-dire de ne pas les laisser dans la nature. On sait très bien actuellement en France, mais pas qu'en France, dans le monde aussi, qu'il y a beaucoup recours aux pratiques complémentaires. Ben oui, mais parfois c'est pas sérieux, parfois c'est ça usurpe l'autonomie et la santé du patient. De travailler en lien avec des pratiques complémentaires entre la ville et l'hôpital, le centre de référence et l'accompagnement en ville, c'est vraiment au bénéfice du patient et de garder déontologiquement un soin qui soit honnête.
Alors tout à l'heure, on a entendu citer par Sarah comme par le docteur Hartmann les thérapies comportementales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus justement? Est-ce que par exemple, dans votre prise en charge, il y a des séances? Comment est-ce que ça se passe? Quelqu'un arrive agité d'un certain nombre de tics, vous faire part de sa souffrance aussi de vivre avec cela, le regard des autres. Comment ça se passe?
Alors, première chose, c'est que on sait, ça dépend du circuit, mais normalement, on sait qu'ils ont été vus, entendus, diagnostiqués dans le centre de référence. Donc, on va pas refaire un travail dont nous ne sommes pas chargés, c'est pas notre mission. On va faire le lien. Et là, comme on sait qu'on peut s'appuyer sur des éléments scientifiques qui ont été bien mis en évidence et un protocole de prise en charge, on va essayer maintenant d'individualiser, c'est-à-dire partir de la connaissance générale pour aller vers le patient au plus proche de ce dont il a besoin. Donc, on va le laisser prendre contact, il va entrer en contact avec nous, et on va pas avoir de protocole qui soit dogmatique. C'est-à-dire que chaque patient va bénéficier d'une écoute particulière, et au cours de cette première rencontre, donc normalement, ça va être par exemple soit Sarah Dehan, puisqu'elle a une compétence en tant que patiente experte, soit un des médecins référents du centre, reçoit le patient, dialogue avec lui, fait une consultation, et à l'issue de cette consultation, on va faire ce qu'on appelle un pacte. Un pacte, c'est l'acronyme de parcours d'accompagnement coordonné thérapeutique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avec le patient, on va élaborer avec lui une stratégie de prise en charge d'accompagnement dans le temps. Alors là, ça va dépendre de ses comorbidités, de ce que nous, en tant que médecins, on va lui proposer en remarquant ce dont il a besoin sur le plan médical, et aussi en prenant compte de ce que le patient souhaite. Donc concrètement, par exemple, pour quelqu'un qui aurait des troubles de l'attention vraiment très importants et peut-être moins de tics, parce que chez lui c'est comme ça, on va essayer de comprendre ce qui pourrait l'aider en se référant aux pratiques qui peuvent être scientifiques. Donc on peut le faire travailler en psychomotricité ou en orthophonie ou en neurofeedback. Et ça va s'affiner petit à petit avec le patient. De cette manière, chaque pacte est individuel, chaque pacte est unique et tient compte de l'élaboration du patient. Ce qui va nous aider en fait à être au plus proche Et après, évidemment, à réajuster en cours de route, si on en a besoin, toujours en faisant le lien avec l'hôpital.
Des parcours individualisés. Merci beaucoup, docteur Adrien Chaboch, d'avoir répondu à nos questions. Et à bientôt dans notre émission. On a bien compris, Sarah, vous êtes intervenante, patiente experte. Est-ce que vous accompagnez aussi des séances particulières? Parce que le grand public ne sait pas forcément ce que c'est, le neurofeedback, de quoi s'agit-il?
Alors, neurofeedback, c'est une technique d'entraînement cérébral, en fait. On travaille avec on réalise un électroencéphalogramme qui nous permet d'analyser et de faire une cartographie du cerveau de la personne, et on peut mettre en évidence quelles zones sont responsables du trouble de l'attention, d'anxiété, etc. Et après, on entraîne le cerveau avec des électrodes, donc posées sur le cuir chevelu, reliées à l'ordinateur, et on entraîne tout ça.
On parlait tout à l'heure de cette saturation dans les centres de référence experts. On a compris avec cette solution proposée par ce type de partenariat. Est-ce que les autorités sanitaires ont conscience justement de cette saturation, de l'insuffisance de l'offre de prise en charge, docteur Hartmann?
Je ne sais pas, je l'espère. Enfin, tous les 5 ans, en fait, les centres de référence et les réseaux sont relabilisés. Donc, pour nous, la prochaine relabilisation, c'est l'année prochaine. Et chaque fois, on dit qu'on demande un peu plus de moyens, mais tout le monde demande plus de moyens de toute façon dans tous les services. Et je ne suis pas sûr non plus que le nôtre soit forcément prioritaire. Vous voyez, mais c'est clair que voilà, on pourrait un peu plus d'aide pourrait serait la bienvenue.
Pour améliorer aussi le quotidien des patients. Alors, ce regard sur la maladie, on en parle depuis le début de l'émission, trouver les symptômes, diagnostiquer. On va avoir tout de suite une illustration en partant au Togo.
RFI à Lomé, 91.5 FM.
Bonjour, professeur Mofubelo.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef de service de neurologie au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. On peut dire, sans s'avancer trop, professeur, que cette maladie est assez mal connue des soignants au Togo.
Bien évidemment, oui. Cette maladie est mal connue du fait de sa rareté et du fait de ses manifestations qui sont caricaturale, et peu de médecins savent le diagnostiquer.
En fait, vous dites sa rareté. Est-ce que c'est parce que la maladie est rare, ou est-ce que c'est parce que c'est rarement qu'on la diagnostique? Parce que toute la différence est là. Est-ce que le problème, c'est pas davantage de reconnaître la réalité de la maladie?
Exactement. Si les patients ou la famille ne reconnaissent pas en tant que problème, ils viendront pas forcément à l'hôpital. Voilà le nœud du problème.
Et précisément dans les familles, quand on voit quelqu'un agité de tics, on va dire, ou qui a des comportements inhabituels, certains diront bizarres, on pense à quoi d'abord dans les familles?
Bon, dans les familles, c'est variable. Certains, suivant le niveau de culture, vont l'amener à l'hôpital, voire un soignant, ou d'autres, c'est dans les sciences occultes qui se dirigent. On pense souvent que c'est lié à la sorcellerie et du fait de ces manifestations qui sont souvent très spectaculaires, stéréotypées et qui viennent souvent par accès avec des vocalisations qui effraient l'entourage. C'est surtout ça le problème.
Il y a un sentiment de peur de la famille quand on voit quelqu'un se mettre, par exemple, à être agité de secousses ou se mettre à crier.
Oui, c'est ça, la violence verbale, les gros mots qui sortent, et ça fait peur à l'entourage, et du coup, tout le monde a peur de cette affection.
Alors, quand les patients sont orientés, est-ce qu'ils vont plutôt chez vous, en neurologie, ou est-ce qu'ils sont plutôt orientés à l'hôpital, au CHU, au service de psychiatrie?
Ça dépend. Soit ils sont envoyés en psychiatrie, ou bien ils viennent en neurologie. Ça va dans l'un ou l'autre sens.
Et qu'est-ce qui est proposé en termes de prise en charge, professeur Bello?
La prise en charge est difficile. Déjà, on ne sait pas le diagnostic. Les patients ou leurs familles ont tendance à vouloir savoir ce qu'il en est. Mm-hmm. Mais la prise en charge, elle est multiple. D'abord, avec des neurosédatifs à petite dose, ou bien par une prise en charge cognitivo-comportementale. Et nous tenons compte surtout des croyances de ces patients qui, a priori, vont aller vers les charlatans, les marabouts ou chez les pasteurs.
Professeur Bello, j'ai une question un petit peu bizarre à vous poser. Syndrome de Gilles de la Tourette. Quand on vit au Togo et qu'on doit annoncer le drôle de nom de cette maladie à un patient, on l'appelle comment? Parce que je dis déjà ici, c'est compliqué de tout retenir. C'est pas évident de comprendre que c'est parce que c'est un spécialiste, un chercheur qui a trouvé cette maladie. On lui donne un nom français à particules, c'est compliqué. Comment vous faites, vous?
C'est difficile hein, de parler de maladie de la Gilles de la Tourette. Déjà, chez les médecins, c'est étrange.
Ouais.
On les met dans le groupe des tiques. Nous parlons plutôt de tiques que de maladie de Gilles de la Tourette.
Parce que aussi, ça éloigne la maladie, ça la rend encore plus inaccessible avec ce nom bizarre.
Oui.
Alors, pour justement soigner les symptômes, tout à l'heure, on voyait qu'il y avait des séances proposées en thérapie. Est-ce que vous allez aussi vers ce genre d'approche, de, on va dire, d'une certaine manière, presque de la rééducation?
Oui, presque vers la rééducation, souvent vers les orthophonistes ou bien chez les kinésithérapeutes, mais c'est difficile. Il n'y a pas de rééducation spécialisée dans ce sens-là. Par rapport à la maladie.
Et on le sait que dans le contexte du Togo, hein, accéder à ce genre de praticien, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et surtout quand on a des soins à faire au long cours, il y a évidemment le problème du financement de ces soins.
Oui, exactement. Exactement. Ce qui décourage les patients, et ils vont plutôt vers les séances occultes, qui sont pour la plupart moins chères.
Alors, un dernier message aux auditeurs. Peut-être que certains ont découvert que avoir des tics, finalement, ce n'était pas forcément faire l'objet d'une, on va dire tout simplement, d'une malédiction ou d'avoir un esprit en soi, même si l'un ne s'oppose pas forcément à l'autre dans l'approche entre le scientifique et le mystique. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs par rapport, s'ils ont des proches, justement, qui souffrent de ce genre de manifestations, de comportements, pour les accompagner et pour qu'ils vivent au mieux?
Ce que moi je peux proposer ou recommander aux auditeurs, en cas de mouvements anormaux en général, il faudra aller en consultation médicale et c'est à partir de là qu'ils peuvent être orientés vers les spécialistes qui forcément vont les prendre en charge.
Merci beaucoup professeur Bello, hein. Merci d'avoir été en ligne du Togo. Vous êtes aussi le chef de division de la surveillance des maladies non transmissibles au ministère de la Santé. On arrive à la conclusion de notre échange. Toujours en ligne avec nous, Sarah de l'Association française du syndrome de Gilles de la Tourette. Votre prise en charge, Sarah, votre suivi, est-ce qu'il a cessé aujourd'hui ou il est toujours en cours?
Il est toujours en cours, mais à très petite dose. C'est occasionnel, je dirais.
Est-ce que vous pouvez nous décrire en quoi il consiste aujourd'hui?
Toujours par moment des suivis en thérapie psychologique.
Et si des patients vous entendent aujourd'hui, quels conseils, quels messages vous voudriez leur faire passer?
De pas rester seul dans leur coin. C'est toujours, c'est pas évident de rencontrer, d'aller vers des associations, notamment moi, ça m'a pris du temps d'aller vers justement l'Association française du syndrome Gilles de la Tourette. Mais ça m'a apporté énormément. C'est d'ailleurs pour ça que je suis bénévole aujourd'hui au sein de l'association. Mais ce que je voudrais souligner, c'est le travail de l'association qui existe depuis 1997. Et c'est grâce à cette association notamment qu'il y a un partenariat entre l'hôpital et la ville qui se met en place. Et c'est vraiment très important de se faire connaître auprès de l'association. Il donne énormément d'informations au départ. Comme je vous disais tout à l'heure, on digère pas forcément bien le diagnostic, mais ça fait du bien de pas se retrouver seul. Notamment, vous voyez, cet été, comme depuis 4-5 ans, l'association organise des campings, des séjours d'été entre familles d'enfants ayant le syndrome de Gilles de la Tourette. Il y a même des adultes qui viennent comme moi. Et ça fait énormément de bien de pouvoir se retrouver ensemble et d'échanger bah, les moments, les bons moments comme les mauvais.
Dans la vraie vie, pas simplement à l'hôpital, pas simplement à l'hôpital. Voilà. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Docteur Hartmann, peut-être pour terminer, question sur ce qui se prépare pour demain, ce sur quoi portent les recherches auxquelles vous participez au sein de l'Institut du Cerveau.
Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de la recherche, mais c'est aussi, voilà, vraiment de la pratique clinique, c'est la diffusion plus large, justement, des TCC, parce que même en France, voilà, il n'y a pas beaucoup de praticiens formés, il faut les trouver, ils sont pas forcément à proximité, et comme vous le savez, les psychothérapies ne sont pas remboursées en France, ce qui est très dommage. Donc, c'est aussi une question de moyens pour beaucoup de patients et leurs familles. Donc, une des choses sur lesquelles on travaille actuellement avec d'autres équipes, c'est d'avoir des plateformes en ligne gratuites qui permettent en fait de faire ce travail seul ou des travails en groupe. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Après, à l'ICM, voilà, l'Institut du Cerveau, on fait beaucoup de recherches physiopathologiques, donc on essaie plutôt de comprendre les mécanismes et les causes du syndrome.
Ça veut dire qu'on est beaucoup sur l'imagerie ?
L'imagerie, effectivement, ça c'est vraiment ce qu'on fait le plus.
Depuis le début de cette émission, on a beaucoup parlé d'éthique. Et certains des tics, mais c'est pour ça que j'en parle à la fin, parce que je veux pas faire une confusion. Certains des tics cohabitent avec des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Est-ce que l'on sait pourquoi? Alors déjà, je voudrais que vous expliquiez bien la différence entre les deux, hein, parce qu'il y a une lettre de différence, mais ça change tout.
Voilà, mais voilà, là aussi, on est aussi dans quelque chose d'un peu français, puisqu'en fait, tic, ça vient de l'italien ticcio, ça veut dire caprice, et TOC, c'est une abréviation, trouble obsessionnel compulsif. Et... dans les deux cas, on a des comportements, on va dire, un peu, ou des mouvements un peu répétitifs. Donc ça, c'est quelque chose qui lie les tics et les TOC. Mais dans les TOC, ce qui est important, c'est vraiment le haut d'obsession. C'est-à-dire, en fait, le geste est une réponse à une obsession. Donc, bah, les TOC classiques, c'est les TOC de vérification ou de contamination, de lavage. Donc, il y a souvent une pensée anxieuse et aussi parfois une pensée magique. Si je ne fais pas ci, il va arriver un malheur ou alors, voilà. Alors que le tic est entièrement, on va dire, automatique ou compulsif. Donc, il n'y a pas cette dimension anxieuse ou obsessionnelle.
Et justement, est-ce qu'on sait pourquoi les deux cohabitent dans une maladie comme, ou des troubles comme le syndrome de Gilles de la Tourette?
On va dire que les tics et les TOC sont fréquemment associés, mais moins d'ailleurs que d'autres comorbidités. Et surtout, ils se manifestent à des âges aussi un peu différents. Les TOC apparaissent plus tardivement que les tics et ont plutôt tendance à augmenter avec l'âge, alors que les tics ont plutôt tendance à régresser. Mais la question du pourquoi, je n'ai pas de réponse non plus.
Alors, Sarah a conclu en parlant de l'isolement. Est-ce que vous diriez, vous aussi, peut-être, que c'est un des éléments les plus à risque pour les personnes concernées par ce syndrome, s'exclure parce qu'on se sent trop différent, on se sent trop bizarre, docteur Hartmann, lutter contre l'exclusion et l'isolement?
Ah oui, tout à fait. Non, la stigmatisation est vraiment un gros, gros problème. Et en ce sens, d'ailleurs, voilà, moi aussi, je dis à tous mes patients, adhérer à la FSGT, parce que c'est très important, voilà, d'être avec d'autres personnes aussi, de méditer, puisque c'est une cause au fond, c'est quelque chose qui est aussi qui est en lien avec la tolérance et le regard qu'on porte sur les gens. Il y a beaucoup de personnes qui, en fait, à mon avis, pourraient très bien vivre avec leur tic, à condition que l'environnement dans lequel ils évoluent soit plus bienveillant.
Un peu plus de bienveillance. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Hartmann, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé, neurologue responsable de ce centre de référence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Notre émission s'achève. Merci à toute son équipe. Elle la fabrique, elle la réalise, cette émission au quotidien. Ophélie Lassen, Louise Kalédek, Steven Elsley et aujourd'hui avec nous Laurent Hérault. Demain dans Priorité Santé, émission spéciale Questions de femmes. Comment réussir à s'affirmer au travail, à la maison, avec l'entourage? Ne plus avoir peur de s'exprimer. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sounou Assurance, qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. 7 milliards de voix.